midi 56, l'heure de la deuxième partie de la Grande Table. Olivia Gesbert.
Exactement. Merci de rester avec nous. On est ensemble jusqu'à 13h30. Cet été a été marqué par une série d'attentats de Nice à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'un comme l'autre revendiqué en France, mais aussi en Allemagne et plus loin de nous en Irak, où l'attentat commis début juillet dans un quartier commerçant de la ville a été le plus meurtrier de l'année. L'État islamique a semé une fois encore la terreur, diffuse comme instantanée, et s'en flatte dans ses communiqués. Une propagande extrêmement organisée qui vise à propager la peur, mais aussi à recruter de nouveaux adeptes, de nouveaux soldats. Pour y parvenir, Daesh pratique le culte des images. Invité de la deuxième partie de la Grande Table, le réalisateur, scénariste et écrivain Jean-Louis Comolli, qui signe en cette rentrée « Daesh, le cinéma et la mort », un ouvrage paru chez Verdier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment allons-nous, Jean-Louis Comolli?
Mais qui prend la température exactement?
Le cinéaste ou le citoyen, choisissez.
Parce que ça dépend un peu beaucoup du thermomètre.
Alors allons-y. Voilà.
Donc moi je pense que sur le plan des images, sur le plan des films, sur le plan des publicités, ça va très très mal. Et ça ne peut que aller pire, je le crains. Alors qu'en revanche, je suis très optimiste pour le destin du monde. Je pense que les sociétés vont s'en tirer. Je pense que les sujets, les êtres parlants vont finir par comprendre où est leur intérêt et qui vont cesser d'accepter l'asservissement qui est pour l'instant le leur. Et je crois que ça va commencer d'ailleurs chez Daesh. Je pense que de plus en plus de soumis ou de soumises qui sont totalement pénétrés de la pensée Daesh vont sinon se révolter, du moins prendre leur distance. Vous savez ce qui s'est passé récemment? C'est le précepte très simple: toute tyrannie appelle son traître. Voilà. Les tyrans et les traîtres vont ensemble. Eh bien, dans le studio Alayat Media Center de Daesh, quelque part à Raqqa ou dans les environs de Raqqa, eh bien, on filme des exécutions, des égorgements simulés et avec lumière, caméra, etc. Et un traître avec son téléphone portable a enregistré la scène.
Voilà. Et on a diffusé ces images.
Et on peut voir qu'il y a une partie bidonnée et une partie répétée dans ces scènes d'horreur.
Ça s'appelle de la contre-propagande. Le djihad Hollywood fabriqué en grande partie dans ce studio à Raqqa que vous venez d'évoquer, Jean-Louis Comolli, votre livre en traite, l'étudie, quelque part le scrute. Votre livre s'articule autour d'un paradoxe. Si les images produites par Daesh sont cinématographiques, elles trahissent pourtant ce qui définit pour vous l'art même du cinéma. Pourquoi avoir choisi tout d'abord, Jean-Louis Comolli, de passer au crible les films, les clips de cette organisation?
Tout simplement parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là, beaucoup là même, je dirais.
Vos yeux aussi, parce que vous n'êtes pas Jean-Louis Comolli, homme d'un certain âge, peut-être le premier public de ces films.
Moi, je suis né d'un père livre et d'une mère cinéma. Et cette union a donné ce que je suis, c'est-à-dire je lis et je vois des films, principalement. Et donc, il se trouve que je suis tombé sur ces petit film de 2, 3, 4, 5 minutes de Daesh, parlant tous arabes, un des nombreux dialectes arabes de la région, et montrant pour la plupart d'entre eux des exécutions. Ce sont toujours des musulmans qui sont exécutés chez Daesh. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est des musulmans. Pourquoi? Parce que la logique de Daesh, c'est la terreur, vous l'avez dit. Mais il faut faire peur d'abord aux musulmans qui sont considérés comme des mécréants, n'ayant pas trouvé la bonne foi, de façon à ce qu'ils se rallient par la peur à Daesh.
Alors je vous interromps, ce ne sont pas toujours, ce sont majoritairement. Il y a eu aussi des occidentaux qui ont été tués, décapités, filmés.
Des occidentaux. Alors si vous voulez, il faut, évidemment tout ça est atroce et on parle de choses épouvantables, mais les attentats de Daesh c'est une chose et les exécutions filmées c'en est une autre. Voilà. Alors c'est vrai que dans les attentats, il y a eu des filmages. Mohamed Nera, on le sait, s'était harnaché d'une caméra GoPro et qu'il a donc pris des images au moment où il effectuait cet attentat dans l'école juive de Toulouse. On n'a pas vu ces images, elles sont dans les mains de la police, je suppose, et ça a donc été filmé. Mais la plupart du temps, les attentats sont pas filmés, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de monde, il y a pas assez de lumière, etc. En revanche, les exécutions d'individus, même s'il y en a 30, sont filmées. Et c'est pas exactement la même chose, parce que les attentats ont lieu la plupart du temps pour faire peur à l'Occident en général et au monde arabe aussi, bien sûr, mais les exécutions, les égorgements, noyades, tout y passe. Hein. Il y a même des scénaristes chez Daesh qui s'ingénient à trouver des nouvelles manières de tuer pour ne pas trop se répéter, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est destiné véritablement au monde arabe. Voilà.
Des images qui sont, vous le dites, extrêmement réfléchies, extrêmement pensées de la part de ceux qui les émettent et qui méritent, du coup, pour vous, aujourd'hui, qu'on s'intéresse aussi à les décrypter. J'imagine que vous n'aimez pas beaucoup ce mot-là, mais à les comprendre en tout cas.
Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Bon, pendant très longtemps, le cinéma a simulé la mort. Bon, le nombre de morts indiens, cow-boys, gangsters, etc., etc., dans les films américains et autres, mais c'est une armée immense. Il y a des milliers et des milliers de morts dans les archives du cinéma qui sont des fausses morts. Après avoir reçu une rafale de mitraillette, le gangster se relève et va boire un whisky. Voilà, ça c'est la mort du cinéma. Ouais. Mais Daesh, c'est pas comme ça. Daesh, c'est celui qui est tué pour de bon. Alors, c'est un saut qui est franchi parce que le cinéma ne tue pas ses acteurs. Voilà, le cinéma ne tue pas ceux qui jouent dans les films. Au contraire, je dirais qu'il en prend soin, hein, et que donc il est au petit soin pour les gens qui vont recevoir, qui sont censés recevoir des coups mortels. Alors que chez Daesh, c'est exactement le contraire. Les gens qui sont tués, non seulement sont tués mais, et filmés en même temps, mais sont méprisés. Il y a une haine, un mépris qui est visible, je veux dire sensible, perceptible, qui est absolument atroce, parce que c'est au fond ce qu'on montre aux spectateurs, c'est que ce sont des êtres méprisables. Voilà. Et qu'en tant que tel, on peut... Alors ça, c'est une logique qui a été celle des nazis pendant très longtemps, hein, ce que les nazis appelaient des êtres indignes de vivre. Voilà. Alors on peut dire que les victimes de Daesh sont considérés par les bourreaux comme des êtres indignes de vivre.
Alors Jean-Louis Comolli, ces images, vous les avez donc vues, je le disais, vous n'êtes le premier destinataire de ces images, mais elles sont arrivées jusqu'à votre regard. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'elles ont provoqué en vous, ces images, la première fois que vous les avez vues?
Une véritable révolte, voilà, un haut-le-cœur, hein, c'est-à-dire que quelque chose dans mon corps, disons, s'est révolté, parce que moi je vais au cinéma depuis très longtemps, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, et j'y suis allé beaucoup, beaucoup, et j'y vais pas pour être, comment dire, méprisé, pour être soumis à des séances de torture. J'y vais au contraire pour y trouver mon bonheur d'une manière ou d'une autre, ou y trouver compassion pour le malheur de l'autre. Mais là, on est véritablement dans une exécution qui ne laisse aucune chance au spectateur. Bon, l'autre, la victime, bien sûr, est exécutée, mais le spectateur, lui, n'a aucun moyen de s'emparer d'un outil pour comprendre ce qui se passe. Alors, ces gens sont tués, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, leur histoire n'est pas là. Donc, tout ce qui fait la possibilité pour le cinéma de conduire le spectateur jusqu'à un regard sur la mort, c'est quand même qu'on lui raconte une histoire, qu'il y a un scénario, qu'il y a d'autres acteurs, qu'il se passe des choses, etc. S'il n'y a que la mort filmée, alors là, c'est sans intérêt. On est dans le cinéma le plus réduit, hein, à rien, à presque rien. Et c'est ça qui est diffusé, à longueur de temps, sur les chaînes arabophones, qui sont à peu près au nombre de 70 aujourd'hui, et c'est des milliers d'heures de crimes qui sont diffusés.
Vous, ces images, Jean-Louis Comolli, elles vous ont heurté, elles vous ont révolté, elles vous ont dégoûté, mais il faut dire...
Elles vous ont scandalisé,
mais elles séduisent certains spectateurs, elles peuvent séduire certaines personnes. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont fabriquées, et c'est pour ça qu'il faut peut-être ensemble, d'ici 13h30, essayer d'analyser quels sont les ressorts, les codes qui sont inclus dans ces images.
Très sincèrement, je crois qu'elles sont destinées à faire peur, avant tout. Voilà. C'est la stratégie stratégie de la terreur. Il y a plusieurs sortes de propagande. Il y a une propagande par la séduction, mais il y a aussi une propagande par la terreur.
Par la peur, ouais.
Et c'est ce qui se passe avec Daesh. Ils n'essaient pas de séduire leurs spectateurs. Ils essaient au contraire de leur faire peur. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils pensent que cette peur va les changer. Va amener chez eux une prise de conscience, qui vont se dire, oh là là, je suis sur le mauvais chemin, il faut que je revienne sur le bon chemin, qui est celui de Daesh. À part ça, on peut considérer que toute torture, toute atteinte au corps humain est susceptible d'entraîner une jouissance chez le spectateur. Et qu'on peut comprendre que des spectateurs de Daesh trouvent finalement une excitation, une sorte d'érotisation dans le filmage de ces exécutions.
C'est et d'héroïsation du coup.
Ouais. Oui, mais ça explique aussi, là on rejoint la grande histoire de la torture en Occident. La torture a été inventée dans le monde entier, mais l'Occident en faisait partie du monde. Et donc, les gens allaient en place de grève voir le bandit coupé en morceaux. Voilà. Il existe un très célèbre cliché de 1905 qui est un cliché chinois, et on voit un jeune homme qui subit le supplice des 100 morceaux, qui consiste à découper sa peau morceau par morceau, voilà. Et devant ce malheureux, il y a des spectateurs. Voilà, des gens regardent ça. Et regardent ça pourquoi ? Parce que, oui, il y a une certaine perversité, là, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, là, il y a une fascination. Il y a une fascination pour l'horreur, dont nous sommes tous partie prenante, je crois. Voilà. Quand une catastrophe arrive, les gens vont au balcon pour regarder ce qui se passe. Quand il y a un tsunami en Asie centrale, les gens vont au balcon pour filmer les cadavres qui flottent sur les eaux, etc., etc. Donc, ça vient peut-être de l'enfance, ça vient peut-être de l'inconscient, peut-être tout ça à la fois. Toujours est-il que l'horreur est très, très ambivalente. À la fois, elle est repoussante et en même temps, elle est attirante.
Je vous cite dans votre livre « Daesh, le cinéma et la mort », vous évoquez cette caméra en marche attachée au corps de l'un des tueurs qui a provoqué en vous la conscience que des morts étaient filmées au nom de Daesh. Et vous dites « J'ai donc essayé de comprendre cette extravagance et ce qui en elle porte atteinte à la beauté comme à la dignité du geste cinématographique ».
Eh oui.
Ça, c'est le fil conducteur de ce livre, de cet essai, Jean-Louis Comolli. On y va, on entre les deux pieds dans le sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure la boîte de production, finalement, de l'État islamique.
Oui, une boîte de production avec des techniciens remarquables.
Voilà, avec des moyens aussi pour tourner
des films. Consoles de trucage. On est dans le numérique absolu.
Alors, c'est cette boîte de production que vous avez citée, le Alayat Media Center.
Ouais.
De quelle rhétorique cinématographique procèdent ces clips? Vous avez été marqué, je crois, par la récupération des codes hollywoodiens. Il faut dire que ces clips sont aussi en partie tournés par une génération qui a été biberonnée par les grosses productions américaines, par des films d'action, ouais. Et que tout ça a circulé grâce à la mondialisation.
C'est une logique. Enfin, si vous voulez, c'est la logique du choc émotionnel, du choc sensible qu'on trouve dans tous les films d'action, les films de catastrophe hollywoodiens. Bon, il s'agit d'impressionner très fort le spectateur de façon à non pas l'empêcher de penser, mais écarter l'idée de penser carrément, la sortir du jeu. Bon, donc on subit des stimuli, parfois des chocs très violents, et on pense pas. Alors, je crois que les gens qui organisent ces films et qui les diffusent à Daesh sont dans cette culture. Ils sont dans la culture du choc et du stimulus, qui est pas du tout la culture de l'émotion, qui est pas du tout la culture de la sensation. Émotion et sensation se déroulent sur une certaine durée, au long cours. Ça se relance, le jeu est complexe. Alors que là, c'est vraiment des coups.
Alors, quels sont ces codes hollywoodiens que vous avez repérés dans ces films?
Écoutez, du spectaculaire, encore du spectaculaire, toujours du spectaculaire. Il s'agit de transformer le monde en spectacle. Alors, ce spectacle peut être horrible, mais c'est quand même du spectacle. Voilà. Et c'est ça la logique. On sait que les ingénieurs qui travaillent au Media Center sont des gens qui viennent des États-Unis. qui sont des convertis à l'islam, qui sont des gens qui viennent d'Allemagne, qui sont, et peut-être même de France, et qui sont des techniciens vidéo, des techniciens numériques, parfaitement rodés et au point. Voilà. Donc, une partie du personnel...
D'où l'utilisation de la haute résolution, d'effets spéciaux.
Oui, voilà, une partie de ceux que nous avons formés à ça travaille maintenant pour Daesh. Alors, bon, il y a une certaine logique, puisque Daesh fonctionne précisément sur le coup de force. Le spectateur est assommé, doit subir ces coups qu'on donne à l'acteur, mais que le spectateur doit subir.
Alors, quelle est la force pour vous de suggestion de ces images ?
Écoutez, bon, moi, je vois beaucoup de peintures. Et dans la peinture européenne, dans la peinture occidentale, il y a eu 1000 représentations de l'enfer. Des souffrances abominables, des corps déchirés, brûlés, mais des plus grands peintres, hein, ce sont, bon, et ne parlons pas de Jérôme Bosch qui est allé encore au-delà de tout ça. Et donc, d'une certaine manière, la peinture a pris en charge la représentation de l'horreur. Et donc, on est dans une culture, déjà, de l'horreur. Alors, ce qui est grave avec le cinéma, c'est pas qu'il soit dans cette culture, mais c'est que le cinéma a été inventé, a été mis au point par les frères Lumière, entre autres, a été mis au point pour affirmer la vie, pour montrer du vivant, montrer des corps vivants, et non pas des corps morts, et non pas tuer ces corps-là. Alors, c'est là où il y a, vous parliez de paradoxe tout à l'heure, oui, il y a un paradoxe, filmer la mort, c'est faire du contre-cinéma. Alors, on se sert de la caméra, bien sûr, mais en fait, on fait l'envers de ce que fait le cinéma. Le cinéma tente de montrer que même après la mort, des corps, des sujets, ben, ils sont toujours sur l'écran. Ils sont toujours vivants sur l'écran. Marilyn Monroe, quand vous la voyez dans un film aujourd'hui, elle est toujours vivante. Hein. Vous voyez, des hommes préfèrent les blondes, un film que j'aime tout particulièrement, de Howard Hawks. Et ben, elle est là, il n'y a rien à faire, elle est là. Elle est là, elle est désirable, elle est vivante. Alors qu'elle est morte, alors qu'on pourrait visiter sa tombe. Donc, c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est de trouver un moyen extrêmement artificiel de passer au-delà de la mort, de faire que la mort n'est pas la fin. Il y a une après-mort, si j'ose dire, qui est l'image. L'image survit à la mort. Et ça, c'est la force du cinéma. Alors, si l'image qui survit à la mort est l'image de quelqu'un qui est vraiment mort parce qu'on l'a tué exprès pour ça, là, ça devient atroce. Vous comprenez ce que c'est un peu trop. Voilà. Quand Marilyn Monroe joue dans un film et qu'elle meurt 30 ans après de sa belle mort, bon, ben, c'est la vie, on est tous mortels. Et on ne l'a pas tué pour ça. Mais quand on filme quelqu'un pour le tuer ou qu'on le tue pour le filmer, c'est absolument réversible. Alors là, ça devient véritablement insupportable.
Rien à voir donc avec l'horreur ou la terreur, notamment mise en scène par exemple par Jacques Tourneur en 42 avec La Féline, qui joue lui avec le hors-champ pour comprendre ce qu'on évoque, hein, ce pouvoir de la suggestion qui s'oppose au tout montrer, tout voir. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. Voilà, à l'opposé du premier degré que vous constatez ou constatiez dans les clips, les films de l'État islamique, ces films qui sont faits, fabriqués pour nous terroriser au sens premier de la terreur, il y a donc ce pouvoir de suggestion qui pour vous est au cœur, c'est le rôle même du cinéma, du vrai cinéma,
voilà,
du bon cinéma.
Le cinéma est né et continue d'exister en articulant le visible et le non-visible. Le champ et le hors-champ. Quand vous filmez, quand vous mettez un cadre, eh ben, il y a toujours du hors-champ, inévitablement. Alors ce hors-champ peut être un hors-champ fructueux, riche, fertile, ou un hors-champ totalement stérile, et c'est le cas dans les films de Daesh, puisque aucun élément du hors-champ n'est perceptible, n'est sensible, ne peut être aperçu dans le champ. Voilà. Donc c'est comme si le champ n'avait pas de hors-champ. Ce qui fait que le spectateur n'a pas la place de se glisser dans le film. Parce que la place du spectateur, c'est toujours la place, c'est dans le hors-champ qu'il a sa place. Dans le hors-champ, je peux imaginer, je peux rêver, je peux penser à autre chose. C'est impossible avec les films de Daesh. On est braqué, enfermé dans le champ. Pas seulement la victime, mais le spectateur. Voilà. Et donc, il n'y a aucune possibilité d'imaginer ou de rêver autre chose. Et donc, on est dans un système que j'appellerais totalitaire, où le dehors n'existe pas. Il n'existe que la chose sur laquelle on compte. Alors ça, c'est très embêtant, parce que c'est cohérent avec, disons, un certain islamisme fanatique, où on est aussi sur la loi de l'un. Voilà, tous les corps croyants doivent se fondre et se confondre avec celui du calife. Voilà, ça ne fait qu'un seul corps. Cette communauté est un seul corps. Alors si c'est ça qu'on filme, il est évident qu'on exclut de ce fait tous les spectateurs qui ne sont pas déjà assimilés à cette unité.
Jean-Louis Comolli, il est 13h17.
Pardon ?
Il est 13h17 et vous êtes l'invité de la grande table.
Bon,
vous restez avec nous ?
Je n'ai pas regardé ma montre.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Vous n'avez pas regardé votre montre, mais moi je regarde la pendule, Jean-Louis Comolli. Oui. Jean-Louis Comolli, cinéaste, réalisateur, scénariste, écrivain. Vous signez en cette rentrée un court essai, mais percutant, Daesh, le cinéma et la mort. Vous interrogez le rôle des images et l'avenir, surtout, des images. Je voulais vous citer l'un de vos confrères, Arnaud Desplechin, qui était interrogé récemment par la revue Esprit sur le statut des images fabriquées par Daesh. Et vous allez voir, ça va dans votre sens. Il dit, Arnaud Desplechin, cela se propose comme une image, mais c'est un peu le contraire d'une image, puisque je ne suis pas conviée à la regarder, mais à en être terrifiée. C'est pour cela que le terme de pornographie est exact, parce que la pornographie est utilitaire et ressemble à un graffiti. C'est le contraire d'une image, par exemple de l'image érotique. On a envie d'en savoir plus, on désire être choqué, qu'elle nous déborde.
Oui, en gros, je trouve que c'est juste. Je pense que le désir du spectateur, c'est d'en savoir plus, d'en voir plus, mais surtout d'en savoir plus. Il y a une proximité qui avait été déjà notée par Saint-Augustin entre la curiosité comme quelque chose de trouble, où on est curieux du malheur de l'autre, on est curieux de l'horreur, et puis la curiosité comme appétit de savoir, appétit de comprendre. Les deux sont liés, nous dit Augustin, et il s'en confesse à Dieu dans les confessions, en disant, voilà, j'ai péché parce que j'ai été tenté, moi aussi, d'aller trop loin dans la curiosité, de voir des choses horribles, et en même temps de me poser des questions qui... Alors c'est là où l'ambiguïté règne complètement, parce que si on refuse de voir l'horreur, est-ce qu'on ne refuse pas aussi de comprendre ce qui se passe ? Je prends un exemple très simple. Les premiers chirurgiens, on les appelait comme ça à l'époque, qui ont disséqué des cadavres, c'est affreux. Bah, c'était, je ne sais pas, au 15e ou 16e, dans ces eaux-là, il y a très longtemps. Bien. Eh ben, ils étaient haïs, enfin, méprisés, parfois exécutés, parfois mis en prison. Ils avaient eu cette curiosité, peut-être malsaine, mais quand même efficace, d'aller y voir qu'est-ce que c'est qu'un corps mort, etc., etc. Bon, je confesse, moi, de mon côté, que j'ai fait quand même un tout petit peu d'études de médecine en Algérie, et qu'il m'est arrivé de disséquer des cadavres, voilà, et que je l'ai fait avec une certaine répugnance, comme tout le monde peut l'imaginer. Néanmoins, le devoir, c'était d'arriver à comprendre comment ça marchait tout ça, l'organisme humain, comme un mécanicien qui s'occupe du moteur d'une voiture. Vous voyez, c'était un peu la chose.
Jean-Louis Comolli, est-ce que cette pornographie par l'image, pour reprendre le terme employé par Arnaud Desplechin, est-ce que ça fait de ces clips, de ces films, du mauvais cinéma ? Une sorte de cinéma sans éthique qui ne peut pas être bon ?
Non, le problème, c'est dans le cas de Daesh et dans le cas de la pornographie, de Bleschin a raison, on est dans une sorte de organisation directive du regard du spectateur. Le regard du spectateur est cadré et il ne doit voir que ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dehors. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hors-champ. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le hors-champ, dans un film pornographique, on ne le sait pas. Peut-être qu'il se passe autre chose, peut-être qu'il ne se passe rien, peut-être qu'il y a juste l'équipe technique qui est en train de travailler. Alors, la présence du hors-champ, c'est la garantie pour le spectateur de ne pas être rivé à l'écran, de ne pas être enchaîné à l'image. Et donc, de conserver une certaine distance par rapport à cette image. Cette distance, c'est la distance de la pensée. C'est la distance de l'analyse, c'est la distance de la liberté de sortir du piège.
Et comme le spectateur n'est plus libre, il n'est plus protégé.
Ah ben, c'est évident que la liberté, c'est dangereux, bien sûr, mais c'est pas tout à fait le même type de danger. Je préfère de loin risquer la liberté que de risquer l'enfermement, voilà.
Mais alors, est-ce que techniquement, quand même, et dans l'intention, vous estimez que c'est du bon cinéma, ce que produit Daesh ? Je reviens non, sur cette non, qualificatif c'est... de bon ou mauvais qui écoutez, va peut-être c'est, introduire c'est... Un jugement qualitatif, presque moral, mais quand même.
Non, non, ce débat est un débat faux par définition, parce que à l'intérieur de l'océan cinéma qui est fait de millions et de milliards d'images et de sons enregistrés depuis les origines jusqu'à nos jours, il y a de l'art, il y a des courants artistiques, mais tout n'est pas de l'art, tout le cinéma n'est pas de l'art. Quand les frères Lumière ont filmé leur premier film jusqu'en 1915, la notion d'art n'apparaît pas. Ils documentent le monde, ils filment le monde, ils filment la réalité, ce qu'ils appellent la réalité. Il n'y a pas d'art. L'art, après, une bataille commence vers les années 10, 12, 15, pour dire, ah oui, mais en fait, le cinéma, c'est de l'art, c'est le septième art. Mais avant que ça soit décrété art, ça filmait quand même. Et depuis, pendant qu'on regarde des films de Bergman, il y a des... ou de Bergman, ou de Desplechin, il y a des centaines de milliers de nos concitoyens, ou de nos... des êtres parlants qui peuplent la Terre, qui utilisent des caméras pour faire des souvenirs de famille, pour filmer l'extraordinaire, pour rapporter des images curieuses chez eux. Et le cinéma n'arrête pas de tourner, même quand ça n'est pas un artiste qui le fait. Et donc, il faut, je crois, distinguer entre l'art cinématographique, qui est une chose, et puis le cinéma, qui est beaucoup plus vaste et qui mêle beaucoup de choses très hétérogènes, dont les films de Daesh, qui, malheureusement, pour cette raison-là, appartiennent au cinéma. Moi, ça ne m'amuse pas du tout de les appeler cinéma, mais je dois reconnaître que c'est un fait.
C'est pour ça, d'ailleurs, que pour vous, votre travail est aussi, quelque part, une réponse à l'horreur et une tentative de sauver le cinéma de ce qui le salit. Ça, c'est votre rôle à vous, de vous impliquer dans ce débat.
Écoutez, aujourd'hui, le cinéma a une grande importance. Le cinéma, je dirais, le cinéma en tant que art cinématographique, même s'il n'est pas pratiqué forcément par de grands artistes. Pourquoi ? Parce que le cinéma, on peut le définir comme prendre soin d'eux. On prend soin des comédiens, on prend soin du décor, on prend soin de la lumière, on prend soin de l'histoire, etc., etc. Prendre soin, c'est la chose aujourd'hui la plus difficile et peut-être la plus révolutionnaire. C'est qu'on est dans un moment où plus personne ne prend soin de rien, où on saccage le monde sans le moindre souci. Et c'est ça que le cinéma ne peut pas accepter, puisque c'est l'art de la prise en charge avec soin du monde. Le monde est pris en charge avec amour.
Vous en remettez un petit peu. Il est temps, hein. Merci Jean-Luc Oboli. Daesh s'inspire du cinéma hollywoodien, vous venez de nous l'expliquer. Le cinéma d'aujourd'hui s'inspire parfois aussi des codes de cette propagande. Il y a des vidéos qui sont produites par Daesh, truffées de références hollywoodiennes, mais il y a une autre question qui se pose aujourd'hui quand la fiction s'empare de ces images tournées par l'État islamique. Quelle responsabilité du cinéaste ? Une question qui a été soulevée par un film controversé, salafiste, de François Margolin et Elie Minouïd. Oui, au-delà des questions de censure, François Margolin s'interrogeait le 29 janvier dernier au micro de la Grande Table sur une certaine politique des images. Écoutons-le.
Notre métier, c'est de réalisateur ou de journaliste, c'est de donner à voir, que ce soit par des mots ou par des images. Parce que des fois, je pense que les mots, en plus, sont des fois plus violents que les images. Et dans notre film, je pense que par moment, les mots sont encore plus violents que les images qu'on montre. Mais ce que je crois, c'est que, par exemple, si vous prenez la guerre du Vietnam, les deux images les plus célèbres qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les livres d'histoire, c'est des images monstrueuses. C'est une petite fille qui court parce qu'elle a reçu du napalm, et l'autre, c'est un soldat sud-vietnamien qui fait exploser devant lui avec un pistolet la tête d'un Viet Cong. C'est des images ultra violentes, mais c'est ça sans doute aussi qui a fait, par exemple, arrêter la guerre du Vietnam, fait basculer l'opinion américaine. C'est-à-dire que il y a un moment où montrer des images, c'est fondamental, y compris si elles sont ultra violentes. Le film, si on prend le film de René, Nuit et brouillard, les images sont terribles et on l'impose à 11 ans ou 12 ans dans les lycées. C'est un film quasiment obligatoire à voir. C'est-à-dire, donc, toute la question, c'est pas les images. La question, c'est en fait finalement la distance, mais pas la distance dans le film, la distance temporelle ou la distance politique qu'on a par rapport aux choses. Et c'est pas les images en soi. Il n'y a pas d'image en soi.
Qu'en dites-vous, Jean-Luc Omolli?
Là, vous m'entraînez sur un terrain difficile parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ah, essayons très court parce que je vous avais gardé ça pour la fin.
Bon. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je pense évidemment qu'on doit prendre soin aussi du spectateur, sinon d'abord du spectateur. Et que c'est ce que ne fait pas précisément Daesh, et c'est ce que ne fait pas non plus un film qui se contenterait d'aligner derrière les uns derrière les autres des petits sketchs de Daesh. Ce qu'il aurait fallu, c'est quand même essayer de comprendre un peu d'où ça vient, pourquoi, qui, d'où viennent ces gens, qu'est-ce qu'on leur reproche. Dans un procès, par exemple, on fait l'historique de la personne, de ses faits et gestes, de ses attendus, de ses croyances. Là, rien de tout ça. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, le film de Margolin ne nous apporte pas grand-chose. Il nous reconfronte une nouvelle fois à ces images insupportables. Insupportables pourquoi ? Mais parce qu'elles n'ont pas d'histoire. Parce que l'histoire a été supprimée, littéralement, et arasée.
Voilà pour l'importance du rôle, du travail aussi du cinéaste dans ce contexte de terreur des images. À noter quand même le travail d'un collectif, je crois qu'il vous est cher, le collectif Abou Nadara, de cinéastes syriens, qui a très clairement choisi de mettre la lumière sur les images qui nous arrivent du conflit syrien et notre responsabilité à nous, les Occidentaux, dans la diffusion qu'on en fait. Il milite pour une réflexion et une politique des images et surtout pour l'idée de redonner de la dignité par l'image aux populations qui sont en prise.
Voilà.
Avec cette guerre,
hein. Et je dirais même de la dignité aux petites choses, parce que les films de Abou Nadara sont très beaux dans la mesure où ils ne montrent que peu de choses. Par exemple, un gardien de la mosquée de Damas qui arrose les murs avec un jet d'eau pour la nettoyer, tout simplement.
Et ces films sont visibles sur Internet aujourd'hui. Le collectif travaille beaucoup de Syrie, de Damas, et met en ligne ces films. À ce propos, je vous attire juste aussi, j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent, sur un livre qui a été important aussi sur cette question, celui du politologue Hassim El Difraoui, Al-Qaïda par l'image, la prophétie du martyr, qui est paru en 2013, et qui explique, selon lui, pour lui, qu'avec maintenant Daesh, la nouveauté, c'est pas tant ces images, c'est les outils de diffusion et la vitesse de propagation de ces images via le web et les réseaux sociaux, ce mode de diffusion qui en accentue, qui ouvre la diffusion de ces images. Un grand merci à vous, Jean-Luc Omolli, d'être venu dans cette troisième édition de La Grande Table. Vous avez été courageux. Daesh, le cinéma et la mort, un ouvrage qui est paru,
malheureusement, ce n'est pas fini.
Qui est paru chez Verdier. Merci aussi à toute la brigade de La Grande Table, à Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc pour leur préparation aux petits oignons et à Perret Legras pour la réalisation de ce magazine.